grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Et ce matin, on s'intéresse au tatouage, ce pacte de sang et d'encre qui permet une mise en scène de soi, d'être en phase avec son identité à un moment de son existence, des bijoux qui marquent la chair mais que l'on peut regretter, qu'il s'agisse d'un aigle, d'un motif tribal ou du prénom de son ex. Il arrive un moment où l'on éprouve le besoin de s'en débarrasser pour se refaire une virginité cutanée. Mais pourquoi éprouve-t-on le besoin de se tatouer? Selon une enquête récente de l'IFOP, un Français sur cinq est ou a été tatoué. Est-ce un choix intime, fruit de son libre arbitre, ou est-ce par mimétisme sous influence sociale? Que faire quand on ne supporte plus son tatouage? Comment se passe une séance pour effacer ce passé qui colle à la peau? Quel est le coût? Car refaire peau neuve coûte de l'argent et du temps, et le résultat n'est pas toujours parfait. Dites-nous ce matin ce qui vous a poussé à vous tatouer. Regrettez-vous votre tatouage? Avez-vous subi des séances de détatouage? 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Pour nous éclairer ce matin, le sociologue David Le Breton, la dermatologue Marie Jourdan et Laurent Guez, directeur du Parisien Weekend, notre complice ce matin. Bonjour Guillemette Audicino.
Bonjour Ali.
Alors je ne sais pas si vous êtes tatoué, mais avec l'esprit d'escalier qui vous caractérise, je suis persuadé que vous avez un tas de choses à nous raconter sur le tatouage.
Sans doute, sur le cinéma et aussi sur ma mère.
À tout à l'heure. Alléluia, il est revenu. Non pas le Messie, non pas le Messie, mais l'ours breton Éric Libiot, rédacteur en chef culture à l'Express. Des fans en pleurs, réclamaient votre éternel retour.
Moi-même, j'étais en pleurs.
Ah, ça fait plaisir de vous revoir.
Bon, mais pas moi.
Je suis un peu hypocrite.
Oui, c'est vrai, c'est pour ça que je joue.
Alors, c'est quoi le menu de votre éternel retour tout à l'heure?
On va parler de tout ce à quoi vous avez échappé au mois de janvier, à savoir la Fashion Week et la journée sans pantalon, notamment.
Allez, à tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse. La vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
Ce qui m'énerve le plus chez les mecs qui ont des tatouages, c'est qu'on dirait qu'ils doivent toujours le justifier par une raison mystique, une histoire super complexe.
Bah, ça correspond à un moment de ma vie où j'étais complètement en bad. Du coup, je suis parti avec des potes en Inde en mobylette pour construire une école de rétro gaming pour les enfants malades. Et il fallait que je le fasse. Si tu veux, c'était nécessaire, j'en avais besoin. C'est comme si Dieu m'avait demandé de le faire en fait. Ça veut dire que Dieu te garde.
Ah, ok. Mais en fait, moi, je parle couramment le langage hindi, et je crois que ça veut pas du tout dire ça.
Ah bon?
Ça veut dire quoi, alors? Bah, ça veut dire... qui veut du fromage?
Quoi? Oh putain, ils sont foutus de ma gueule!
Extrait de Norman fait des vidéos et je peux comprendre qu'on puisse regretter un tatouage qui indique qui veut du fromage, quoique ça dépend du fromage, hein, Guillemette Audicino.
Oh oui, moi ça me déplairait pas en fait.
Alors avec nous ce matin pour évoquer le tatouage et le détatouage, David Le Breton, bonjour.
Bonjour.
Je suis ravi de vous accueillir dans ce studio. Vous êtes professeur de sociologie et d'anthropologie à l'université de Strasbourg, chercheur au CNRS et vous êtes accessoirement l'un de mes sociologues préférés. Vous avez jadis publié Signes d'identité, tatouage, piercing et autres marque corporelle chez Métellier. Bonjour Laurent Guez.
Bonjour Ali.
Je suis ravi de vous voir également, directeur du Parisien Weekend. Notre partenaire ce matin vous publie un papier ce vendredi, « Je t'ai plus dans la peau ». Et nous aurons tout à l'heure au téléphone la dermatologue Marie Jourdan et l'écrivain tatoué Héloïse Gay de Bélissin. Alors David Le Breton, ça vient d'où le nom tatouage? Je crois que la racine est haïtienne.
Oui, la racine est haïtienne et d'ailleurs la manière de nommer le tatouage va également être l'acte de naissance finalement, puisque il s'agit en fait du capitaine Cook qui relâche au large de Tahiti, je crois qu'on est en
1769,
là vous vous rappelez mieux que moi. Et donc les marins du capitaine Cook voient arriver une flottille d'insulaires dans des canoës, et ils sont le capitaine Cook et tous ses hommes sont absolument émerveillés de la beauté de ces tatouages. Et le capitaine Cook, dans son journal, qui est d'ailleurs un merveilleux livre d'aventure, dit bon, nous regardâmes avec admiration, etc. Tout, et c'est là où il dit les Tahitiens nomment ces marques tatou, et donc voilà, le capitaine Cook donc va baptiser en quelque sorte cette pratique. Et il faut dire que dans les jours qui suivent, les marins, mais aussi des officiers de bord, vont aller se faire tatouer auprès des artistes insulaires.
Et le mot tahitien tato, T-A-T-A-U, signifie marquer, frapper, blesser, dessiner.
Voilà. Oui, voilà, parce que c'était effectivement des tatouages qui étaient assez douloureux, qui continuent d'ailleurs. Je crois qu'il y a un revivalisme du tatouage dans les Marquises, en Tahiti ou ailleurs, et où on fait un coup de poinçon dans le corps pour introduire l'encre.
Depuis quand l'homme se tatoue la peau? À quand remontent les premiers ornements corporels?
On peut dire que c'est aussi vieux que l'humanité, parce que ce qui caractérise une société humaine, c'est finalement une manière de s'approprier le corps, d'y inscrire ses empreintes. Je pense que les premiers tatouages doivent remonter à 50, 60, 100 000 ans avant aujourd'hui, mais on n'a pas de traces, évidemment, parce qu'on ne dispose que de squelettes. Les premiers tatouages qu'on peut voir de ses propres yeux renvoient à des momies, et notamment le fameux Ostli qui date de 5500 ans. Mais il y a énormément de momies égyptiennes également qui étaient tatouées. Et donc, ça montre, de mon point de vue, que le tatouage était quand même relativement diffusé à cette époque-là. Parce que l'homme de Ötzli, il est dans les Dolomites. Il a été retrouvé dans les Dolomites, hein, entre l'Autriche et l'Italie. L'Égypte, c'est quand même un peu loin. Donc, on peut très bien imaginer qu'il y a eu énormément de diffusion de ces formes de marquage du corps et en même temps de signe d'identité par rapport à un collectif.
Alors selon une enquête de l'IFOP menée en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis et publiée par La Croix en septembre 2018, 18% des Français majeurs sont ou ont été tatoués, soit près d'un Français sur cinq. Aux États-Unis, le chiffre grimpe à près d'un tiers des majeurs américains. C'est devenu un phénomène de masse, le tatouage, qui concerne toutes les couches de la société.
Oui, les moins de 35 ans, d'ailleurs, en France, sont plus de 30% à être tatoués. Alors oui, pour moi, le tatouage est maintenant un phénomène de culture. On m'a souvent dit, c'est un phénomène de mode. Non, ça ne passera plus jamais. C'est une vague de fond. Dans les années qui viennent, on aura une diversification de l'offre, évidemment. Mais le tatouage, donc, faut dire qu'il vient de loin, d'une certaine manière. Donc, l'acte de naissance était avec le capitaine Cook, et donc ça va toucher d'abord le milieu des marins. Et d'ailleurs, Herman Melville, dans Moby Dick, nous décrit d'innombrables marins tatoués, dont le fameux Quiqueg qui lance ses harpons. Et puis, donc, le tatouage va se diffuser dans les ports, puis va gagner des milieux plutôt marginaux. Interlopes, voilà, des truands, des soldats, des marins, des gens de milieux très, très populaires. Et puis, pendant très longtemps, pendant plus d'un siècle, finalement, le tatouage va être plutôt masculin, machiste, populaire, mal vu, enfin, signe de dissidence, de rébellion. Et il faut attendre les années 80 aux États-Unis pour qu'on assiste à une renaissance du tatouage.
Alors, selon l'enquête de l'IFOP, il y a un peu plus d'hommes, 20%, oui, que de femmes, oui, 16% qui se tatouent. Laurent Guèze, est-ce que vous êtes tatoué? Tiens, vous qui êtes un mauvais garçon.
J'ai d'autres façons d'exprimer mes travers. Non, je suis pas tatoué, mais c'est vrai que la question dont David Le Breton parlait à l'instant sur la mode était un peu le point de départ de notre enquête. En fait, on a envoyé une journaliste à Los Angeles, qui est un des temples mondiaux de la mode, des tatouages en tout cas. Et notre idée de départ journalistique, c'était, il y a une nouvelle mode d'avoir une peau vierge. Donc il y a une contre-mode qui est de ne plus se tatouer. Et c'était une intuition assez fausse, en réalité. Donc, c'est comme ça, hein, quand on envoie un journaliste, on ne sait pas obligatoirement ce qu'on va trouver. Et ce qu'elle a trouvé, c'est plutôt un incroyable essor du détatouage, mais pas uniquement pour des questions de mode. C'était pas le sujet, c'était plutôt, et c'est un peu le thème de votre émission, un regret sur le tatouage qu'on porte. Et c'est là ce qu'on a trouvé, en tout cas en Californie.
Et on y reviendra dans la deuxième partie de l'émission. Tiens, Guillemette Todisino, vous m'avez confié que vous avez toujours refusé que vos enfants se fassent tatouer.
Mais je ne fais que reproduire bêtement, en fait. Puisqu'on vient de le dire, effectivement, pendant très longtemps, le tatouage a été considéré... Je vais quand même prononcer le mot, parce que on est sur des œufs là, mais vulgaire. En tout cas, pour une femme, moi j'ai été élevée par une maman d'un certain milieu bourgeois qui me disait « Alors ça, sûrement pas !» J'avais le droit à toutes les bêtises, mais alors le tatouage, si j'étais revenue avec un truc sur l'épaule, j'aurais entendu parler de... Et j'ai reproduit ça bêtement avec ma fille. Ma maman avait une blague pour me convaincre de ne pas me faire tatouer. C'est, elle me demandait la différence entre un dauphin et une jeune fille. Bah, je ne sais pas. Eh bien, le dauphin, lui, ne se fait pas tatouer une jeune fille sur l'épaule.
Éric Livio, est-ce que vous êtes tatoué, vous?
Non, je ne suis pas tatoué. Je me demandais d'ailleurs si on était tatoué à tout âge. ou pas?
Oula. Je vous ai bien fait de revenir dans l'émission.
Ah bah, je vous avais prévenu, hein. J'étais pas sûr de venir. Bon, non, 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 mais, enfin, par rapport à ce que dit Guillemette, c'est vrai que les enfants, évidemment, dans cette génération, demandent toujours à être tatoués s'ils veulent. Moi, j'ai toujours la, à partir du moment où les enfants sont majeurs, voilà, mais il y a une espèce de capillarité sociale parce que ni ma femme ni moi nous sommes tatoués, donc les enfants non. Est-ce que ça marche comme ça, oui, ou est-ce que c'est une espèce
intéressante question, David Breton.
Ce qui se joue là au moment dans le rapport parent-enfant, évidemment, c'est que le jeune qui veut se faire tatouer signe son corps en quelque sorte. Le tatouage, une forme de signature. Mon corps m'appartient. Il dit à ses parents, je vous aime, mais désormais je suis grand, quoi. Et c'est bien une manière de s'affranchir. Et beaucoup de parents sont hostiles. Et je me rappelle d'ailleurs d'une anecdote quand je travaillais sur le sujet à la fac. Une collègue me voit dans le couloir et me dit, David, tu travailles sur le tatouage. Imagine que ma fille qui a 17 ans m'a dit, maman, je veux absolument me faire tatouer. Je lui ai répondu, jamais, c'est moi qui t'ai fait. Je ne veux pas que tu touches à ton corps.
Allez, ah, alors,
on peut imaginer d'ailleurs comment cette fille a dû foncer vers le premier tatoueur, la première boutique. De tatouage.
Maman l'a dit plus drôlement, du coup je suis pas tatouée.
Allez, n'hésitez pas à nous dire pourquoi vous êtes tatouée, quelle histoire vous lie à votre tatouage, et également si vous le regrettez. 01 45 24 7000. Alexia Rivière et Claire Destacan m'ont aidé à préparer cette émission avec l'aide de Nicolas Bove, et c'est réalisé par Stéphanie Texier. On est très premier degré dans Grand Main Vous Fasse, Étienne Dao et Paul Tatou.
Qu'est-ce qu'il a dans le dos?
Un tatouage.
On dirait une reproduction d'un Modigliani.
Grand Bien Vous Fasse.
Pourquoi me l'ai pas dit? Hein? Je veux voir ce tatouage tout de suite. Allez hop!
Sur France Inter.
10h22, regrettez-vous votre tatouage? C'est notre thème ce matin. C'est l'occasion de se demander ce qui nous pousse à se faire tatouer. 01 45 24 7000.
Vous connaissez Modigliani?
Oui, il le connaissait très bien.
Non, jeune homme, je ne connaissais personne. Il était 2h du matin, je suis entré au Café du Dôme à Montparnasse, il régnait comme une démence. Alors il y a un type qui s'est approché de moi, il m'a dit « je veux te tatouer une femme dans le dos ». Oui monsieur, et je me suis couché sur le billard.
Oh.
Oui monsieur, et ça n'est que 20 ans plus tard que j'ai appris que c'était Modigliani et que j'étais devenu un chef-d'œuvre.
Oh là là.
Oui mon petit, oh. Oui mon petit, oh. Oui.
Un extrait du tatoué avec Jean Gabin et Louis de Funès. David Le Breton, je rappelle que vous êtes sociologue. Avec le tatouage, on rêve de faire de son corps une œuvre d'art, voire un chef-d'œuvre.
Oui, on pourrait dire que c'est du body art d'ailleurs. Bon, en faire un chef-d'œuvre, je sais pas, mais disons que c'est une manière en tous les cas de signer son corps, de dire mon corps m'appartient, et puis en même temps de se mettre en valeur, de se mettre en scène. Le premier motif du tatouage quand même, c'est la beauté. Hein, c'est une manière d'esthétiser son corps de manière plus ou moins discrète, plus ou moins avec un jeu aussi entre le public et le privé. Il y a des tatouages qu'on montre, qu'on partage, il y en a d'autres qu'on garde pour soi ou pour sa compagne ou pour son compagnon. Mais c'est une manière d'inscrire quelque chose de son histoire aussi. On peut dire que dans les sociétés traditionnelles règnent des mythologies, c'est-à-dire une sorte de grand récit commun qui ordonne l'ensemble de la vie quotidienne. Et le tatouage va s'inscrire là-dedans. Dans nos sociétés, au contraire, il n'y a plus de grand récit. Et nous sommes des individus. Et on peut dire que le tatouage est une manière d'inscrire une histoire sur sa peau, d'inscrire une mythologie personnelle. Et c'est pour ça d'ailleurs que les personnes tatouées sont souvent assez intarissables sur leur tatouage. C'est un peu l'identité narrative d'ailleurs de Paul Ricoeur. Voilà, il faut se raconter. Et vous dites à quelqu'un que signifie ton tatouage? Vous en avez pour un bon moment.
Alors on l'a vu, selon une enquête de l'IFOP, près d'un Français sur 5 est ou a été tatoué. Se faire tatouer n'est plus si original que ça quand ça devient un phénomène de masse. Peut-on dire que le tatouage s'est banalisé et qu'il s'agit peut-être d'un nouveau conformisme?
C'est un jugement de valeur, évidemment.
Oui, c'est un jugement de valeur et je l'assume.
Oui, d'accord. Non, c'est à la fois... Alors, dans nos sociétés contemporaines, à la différence des sociétés traditionnelles, on se tatoue pour s'individualiser, pas pour s'immerger à l'intérieur du groupe. Le problème, c'est que l'offre n'étant pas gigantesque, des millions de personnes se retrouvent avec exactement les mêmes tatouages. D'autant plus quand ils prennent le modèle d'un footballeur ou d'une actrice comme Angelina Jolie ou autre. Donc finalement, ils pensent s'individualiser, ils pensent être un peu en dissidence, mais ils sont rattrapés par l'univers de la marchandise, enfin par une marchandisation du corps, et finalement, il y a des tas de gens qui portent exactement le même tatouage à travers le monde.
Laurent Guez du Parisien Weekend.
Non, mais il y a une grande figure intellectuelle contemporaine, qui est Kim Kardashian, qui a eu cette phrase « On ne met pas d'autocollant sur une Bentley ». Eh ben, pour une fois, Ali, moi je suis d'accord avec Kim Kardashian, et je trouve que la beauté du corps nu, c'est la Bentley.
C'est vrai et... qu'on est à la radio et c'est vrai qu'il y a une petite ressemblance à Kim Kardashian,
oui,
quand même,
remarqué,
ouais. Je me demande parfois, Ali, s'il n'existe pas une sorte de fantasme de remplissage. Mmh. Parce que quand on se balade dans nos villes, on voit que d'innombrables affiches sont faites avec des mannequins qui portent des tatouages. Et je me suis souvent dit... finalement, dans pas longtemps, peut-être ce qui sera le comble de l'érotisme, de l'étonnement, ce sera d'avoir un corps absolument nu.
Oui, d'ailleurs, on a essayé dans cette enquête sur le détatouage, de voir un petit peu les motivations. La principale, c'est effectivement le regret, parce que le message qu'on portait à ce moment-là est périmé, annexe, etc. Il y a aussi le tatouage raté, là, qui est beaucoup plus prosaïque, c'est quand le tatouage a été mal exécuté et qu'il est affreux, quoi. Mais il y a une troisième raison qui ressemble à ce que vous dites, David Le Breton, c'est que certains fous du tatouage se détatouent pour en mettre de nouveaux, parce qu'il n'y a plus de place sur leur corps, et donc ils vont chez le dermato pour effacer et pouvoir renouveler un peu leur fresque corporelle.
Bonjour Sophie.
Bonjour
Sophie.
Ali, bonjour à tous.
Vous appelez de Fontenay-aux-Roses, alors vous, est-ce qu'il y a encore, oui, de la place pour des tatouages sur votre corps?
Oh, oui, largement. Alors, largement, et je ne veux pas faire de remplissage, et je ne ferai pas technicolor non plus.
Alors, je crois savoir que vous avez fait votre premier tatouage très récemment.
Oui, comme on parlait d'âge tout à l'heure, moi j'ai bientôt avoir 60 ans. Mes filles qui ont fait leurs études dans différents continents et qui ne vivent pas sur le même, se sont fait le même tatouage, ce qui est un petit... qui est sans doute un signe de leur lien, de leur attachement et de leur amour. Et puis, celle qui vit au Canada a continué à remplir un peu, on va dire, mais c'est très courant là-bas. Et moi, comme je suis artiste, j'ai vu des choses qui m'ont beaucoup plu, mais je me suis dit, j'ai pas envie d'être un tableau comme un Modigliani sur le dos. Mais par contre, mon chemin de vie, c'est moi. Et je suis allée chez un tatoueur, en Polynésie, chez un tatoueur maori, et je lui ai dit, voilà, je veux pas me faire un tatouage maori parce que je ne suis pas de la culture maori, je veux juste faire un tatouage parce que j'aime votre graphisme et je voudrais qu'il raconte mon chemin de vie parce que je sais que vos signes racontent ce que l'on est. Et voilà, donc j'ai un bracelet assez discret en dessous du coude, à l'avant-bras, et contre l'avis de mes filles, je me suis fait tatouer.
David Le Breton, c'est intéressant oui. Ce que nous dit Sophie.
Oui, effectivement, il y a l'exotisme, il y a le fait de marquer dans sa peau la mémoire d'un voyage, sans doute, et puis il y a le recours à de vieilles traditions du tatouage, puisque les Maoris sont en effet extrêmement fameux en la matière, même s'ils sont beaucoup pillés. Et j'apprécie aussi cette manière de ne pas avoir sur son corps un tatouage maori original, mais plutôt une sorte de réinvention. Parce que nombre de personnes qui portent des tatouages maori aujourd'hui en France, par exemple, ignorent totalement qui sont les Maoris. Et je sais que ça ne plaît absolument pas à cette ethnie plutôt de Nouvelle-Zélande qui voit ça comme une manière de profaner finalement des signes qui sont religieux, parce que les tatouages Maoris sont des tatouages religieux.
David Le Breton, avec le tatouage, on cherche à se fabriquer un mythe personnel.
Oui, c'est ça. Une histoire à raconter, une manière d'exister finalement, de se rendre vivant, et puis intéressant également au regard des autres. Pas seulement dans le fait d'attirer leur regard, mais dans le fait de dire j'ai quelque chose à raconter. C'est vrai que c'est merveilleux de se dire je me suis fait tatouer dans les îles Marquises par un tatoueur traditionnel et autres. Ça, c'est une sorte de sacré personnel. Je crois que dans le tatouage d'ailleurs il y a l'invention d'une forme de sacralité personnelle, un moment puissant mais qui vous transforme aussi.
Vous êtes d'accord avec ça, Sophie?
Ah oui, ça me transforme tous les jours parce que je le regarde, je sais pas que je le vois, je le regarde tous les jours, je vois le symbole de mes filles, je vois le symbole de mon foyer, de la défense de la nature, de l'air, de l'eau, mes éléments préférés, et c'est vraiment quelque chose qui m'accompagne et qui est moi tous les jours. Et d'ailleurs, j'avais acheté un livre sur les tatouages maoris avant de me décider pour voir quels étaient les symboles, leur sens, et en plus, chaque île a sa façon de dessiner ces symboles sacrés.
Merci beaucoup, Sophie, d'être intervenue ce matin. David Le Breton, se tatouer, c'est une manière de fixer son identité dans un monde instable?
Oui, c'est vrai, c'est vraiment un signe d'identité dans tous les sens du terme. C'est une manière de s'agripper à son corps, d'une certaine manière. D'ailleurs, entre parenthèses, ce qui fait que je me suis intéressé un jour au tatouage, c'est mon travail plutôt sur les conduites à risque, sur les souffrances adolescentes. Parce que dans les années 90, on m'avait demandé si un jour j'écrirais sur le tatouage. Et je me souviens très bien d'avoir répondu non, parce que c'est un sujet beaucoup trop compliqué. Il y a tellement de sociétés humaines qui l'utilisent. Bon, et puis en même temps, ça me paraît, par rapport à d'autres thématiques, ça me paraissait un sujet mineur par rapport à la société française de l'époque. Mais je me suis rendu compte, oui, le temps est passé, et je me suis rendu compte en travaillant sur les souffrances adolescentes qu'énormément d'ados ou de jeunes adultes coupaient court avec leur mal de vivre en changeant de peau. Hein, je joue exprès avec les mots, en faisant peau neuve, etc. Leur tatouage était pour une forme de renaissance, un peu comme l'a dit Sophie d'ailleurs, une manière de renaître, de se reconstruire, de changer de vie. Et donc il y avait une forme de prévention dans le tatouage par rapport aux conduites à risque. Et ça a été mon entrée. C'est pas là, et je ne veux absolument pas dire d'ailleurs que les personnes tatouées sont des gens qui sont mal dans leur peau. C'est pas ça du tout. Je pense que la plupart sont très bien dans leur peau, mais que certains qui sont mal dans leur peau vont trouver une signification supplémentaire à leur vie.
Guillemette Audition.
Ah oui, ce serait se tatouer au lieu de se scarifier, quoi. Enfin, pour s'empêcher de se scarifier. Enfin, là, dans ce cas des adolescents.
Il y a pas forcément un lien entre les deux. Non.
Mais en tout cas, le fait de la
c'est une
peau,
manière de trouver une réponse.
De trouver une réponse.
Oui.
Et moi, je voudrais juste savoir si il y a si certaines zones de tatouage ont des significations particulières ou pas. Comme ce qui pouvait être les mouches. enfin au 18e, etc. Ouais. Si on le mettait sur près de la lèvre, près de l'arcade sourcilière, sur l'épaule, dans le décolleté. Enfin, est-ce que les tatouages c'est pareil? Est-ce qu'il y a des zones d'identification, des messages?
C'est purement personnel. Là.
Ça c'est purement personnel.
Évidemment, quand on tatoue le visage, par exemple, ou le cou, là, on est dans un symbolisme très puissant parce que le visage c'est le lieu de notre reconnaissance mutuelle, c'est le lieu de l'amour, c'est le lieu qui fait qu'on est nommé, etc. Et donc il y a une valeur éminente dans le visage dans nos sociétés contemporaines. Or, tatouer son visage, c'est d'une certaine manière l'effacer. Et donc il y a encore quelque chose quelqu'un qui tatoue son visage, c'est quelqu'un qui est davantage en dissidence. Là, on peut dire il y a une forme de rébellion qui s'exprime.
C'est Johnny Depp dans Cry Baby. Même,
voilà, exactement.
Oui. Bonjour Héloïse Gué de Bélissant. Bienvenue.
Bonjour.
Je suis ravi de vous accueillir dans l'émission. Vous publiez chez Robert Laffont « Parce que les tatouages sont notre histoire ». Vous y racontez des histoires vraies de tatoués. Qu'est-ce qui rassemble toutes ces histoires? Quel est le point commun de tous ces tatoués dans votre livre?
Eh ben, le point commun, en fait, c'est cette idée de renaissance, c'est vrai, dont vous parliez à l'instant. L'idée d'un renoncement de soi et d'une naissance de soi. C'est des gens qui ont envie de changer, qui ont envie de faire des choix définitifs, qui ont aussi envie de se orner, de changer de peau, changer de corps, de vivre un rituel de passage. Ça, c'est sûr. Le rituel de passage, c'est vraiment la base de... c'est ce qui fait écho à chaque histoire.
Et est-ce qu'il y a cette volonté, chez tous les tatoués que vous avez rencontrés, cette volonté de sortir du lot, d'échapper à l'indifférence? Est-ce que c'est quelque chose qui peut rassembler vos histoires?
Alors, oui, oui, c'est vrai. Et en même temps, c'est paradoxal le tatouage, parce que à la fois, on est absolument dans une filiation humaine, l'histoire du tatouage, depuis très longtemps. Donc, on rentre dans l'humanité totalement avec un geste artistique et très fort, et qui appartient à l'humanité absolument. Et à la fin, on s'en distingue. Donc c'est très paradoxal. Mmh. Et moi, je pense que le tatouage, c'est plus de l'ordre de l'expérience que du rendu visuel aussi.
Mmh. Et vous, quelle histoire racontent vos tatouages, Héloïse Gué de Bélissant?
Ils racontent mes erreurs, parce qu'il y a des tatouages qui sont ratés, absolument ratés, je dirais.
Et vous les assumez?
Totalement. Ouais. Je les garde tels quels, quasiment. J'y touche pas, je fais pas de recouvrement ou de cover comme le font les gens en général. Ils font partie de moi, comme dans ma vie j'ai fait des erreurs, ils sont là quoi. Et ils me représentent, mes erreurs me représentent aussi. C'est malheureux, mais c'est comme ça.
Ce tatoué, je pose la question à David Le Breton et à vous également Héloïse, c'est un acte impulsif ou c'est une décision mûrement réfléchie, David Le Breton?
Il y a les deux, parce que souvent chez les plus jeunes, et c'est ça qui provoque le fait que beaucoup de jeunes sont contraints au détatouage, c'est plutôt un coup de tête, sans beaucoup de réflexion. Je pense que les aînés méditent davantage d'abord le motif, choisissent un motif aussi beaucoup plus original, vont davantage voir un professionnel qui a une bonne réputation et qui est porté par le bouche à oreille. Voilà, donc on ne peut pas généraliser.
Héloïse, Gué de Bélissant.
C'est vrai que c'est les deux, en fait. Et moi, je suis un exemple des deux, par exemple. J'ai fait des tatouages sur des coups de tête, et j'ai fait aussi des tatouages normalement réfléchis. On peut tout, parce que c'est vraiment une expérience. Le tatouage, c'est quelque chose qu'on éprouve. Et donc, du coup, comme c'est un geste et un comportement... joyeux en fait, on est presque aussi dans le jeu. Tout est possible.
Bénédicte nous dit sur notre page Facebook avec la crise de la quarantaine, je me suis fait tatouer la tête de mon chat sur la cheville. Ça intéresse Guillemette Odissino. Le tatouage est hyper réaliste et super fin. Je l'adore, mais je resterai probablement célibataire pour toujours. Du coup, voilà. Vous pouvez continuer à réagir sur notre page Facebook. Héloïse Gué de Bélissant, vous restez avec nous. Vous pouvez nous appeler au 01 45 24 7000.
Baby, if you want it, no one don't let you know. Right when I
Vous adorez ça, hein, Guy Méthodici. Nous êtes en train de danser dans le studio. Balthazar Entertainment.
Chaque fois que je me trémousse, on me dénonce.
Dans les prisons russes, toute votre vie est tatouée sur votre corps.
Grand bien vous fasse.
Si vous n'avez pas de tatouage, vous n'existez pas.
Sur France Inter.
10h39, regrettez-vous votre tatouage? L'occasion de se demander ce qui pousse à se faire tatouer. 01 45 24 7000. David Le Breton, je rappelle que vous êtes sociologue. Pendant longtemps, le tatouage a été une marque d'infamie. Dès la Rome antique, les esclaves étaient tatoués.
Voilà, on marquait sur leur corps pour que ça saute aux yeux, que c'était des hommes réprouvés. Et ça va durer pendant très très longtemps dans d'autres sociétés humaines. D'ailleurs, au Japon, c'était la même chose. Mais ça va durer pendant très très longtemps dans notre histoire, puisque rappelez-vous, dans la fameuse scène des Misérables, quand Monsieur Madeleine va se révéler comme étant Jean Valjean pour disculper un homme qu'on croit être lui, pour démontrer qu'il est effectivement un ancien forçat, il enlève ses vêtements et il montre qu'il a en effet les marques du bagne, du fait qu'il a été voleur, etc.
Au Moyen-Âge, les voleurs étaient marqués par une fleur de lys. Le marquage des réprouvés et des condamnés se poursuit sous l'Ancien Régime. Les galériens portent la marque GAL, G-A-L. Oui. Les voleurs V, les mendiants M. Et le code pénal de 1810 utilise le marquage pour, par exemple, les travaux forcés. Eh bien, c'est un T. Et puis, évidemment, l'exemple extrême de l'infamie et de la déshumanisation, c'est le tatouage lors de l'arrivée dans les camps de concentration et d'extermination nazis. Tatouage appliqué sur le poignet des déportés.
Oui, voilà. Et qui fait d'ailleurs que nombre de personnes sont hostiles aujourd'hui au tatouage parce que c'est une mémoire trop douloureuse et préfèrent rompre avec ça. Oui.
Éric Libiot, vous aviez peut-être une réflexion. Vous me regardez avec des yeux très intéressés, donc je pensais que vous aviez un truc intéressant à dire.
Non, je n'ai rien à dire.
Alors, le tatouage, on l'a dit hein, tout à l'heure, c'est devenu un phénomène de mode. C'est à partir des années 80-90 et sous l'impulsion des célébrités. Hein,
Oui, notamment Jack Nicholson ou d'autres. Bah, c'est une manière de légitimer...
David Beckham dans les années 90-2000.
Oui, on pourrait comme ça trouver des têtes d'affiche. Mais c'est une manière de légitimer effectivement le tatouage. Si eux le font, alors n'importe qui peut le faire. Parce qu'il fallait quand même, pour que le tatouage émerge sur un plan social comme ça et qu'il se diffuse, il fallait absolument ôter cette connotation négative, péjorative, vulgaire, populaire, etc. et montrer que c'était un signe de dignité finalement.
Je pense pas qu'on puisse parler
Laurent Guez du
de,
Parisien week-end. Ouais,
je pense quand même que l'explosion, puisque c'est quand même une explosion, on parle d'un Français sur 5, c'était il y a encore 15 ans, un Français sur 10. Sur oui, 10. Oui. Donc il y a vraiment une explosion du tatouage. Je pense qu'il est difficile de la dissocier de ce qu'on appelle personal branding, c'est-à-dire que les réseaux sociaux nous demandent à chacun d'être une marque, d'être
de se singulariser.
Une singularité, et une singularité y compris qui se voit sur la photo de son profil. Donc je pense quand même que quand on parle des figures que sont les stars, les people, etc., c'est effectivement le comble de ça. C'est-à-dire qu'il représente le personal branding dans toute sa splendeur.
Et puis on peut dire aussi que chaque événement sportif finalement devient une sorte de publicité incroyable pour le tatouage.
La Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde.
Exactement. On peut chercher désespérément le footballeur qui ne porte aucun tatouage ou le nageur dont le corps reste vierge.
Mais pour ce qui est des célébrités et de ces marques presque où on se vend soi-même, où on vend son film, maintenant c'est la mode que sur certains tournages ou après certains tournages, les acteurs d'un même film se fassent tatouer le même symbole. Ah. Par exemple, tous les acteurs des Avengers se sont fait tatouer le même tatouage sur tous pour montrer qu'ils sont l'équipe des Avengers. Dans les séries télé, c'est pareil. Dans certaines séries, les jeunes filles, les jeunes actrices se font tatouer le même symbole. Il y a quand même à côté le sceau d'une marque. C'est un peu spécial, ça, effectivement.
Allez, on va tous se faire tatouer Grand Bien Vous Fasse.
Oh oui, GBF. Oh oui, oui, oui.
GBVF.
Le papillon estampillé de Lopette, c'est mon fonds de commerce. Je suppose que c'est le résultat d'une mauvaise rupture et d'une bonne biture. Sauf si c'est un tatouage de gang, dans ce cas, il est temps de trouver un autre gang.
Ah non, je pensais que ce serait cool de me faire tatouer une chenille, mais quelques semaines après, tout à coup...
Bon, je peux l'effacer en 10 séances d'une heure, mais je vous préviens, la chirurgie au laser est vraiment douloureuse.
Je vous rassure tout de suite, la douleur, je tolère très bien.
Extrait de la série américaine How I Met Your Mother. Bonjour Marie Jourdan.
Oui, bonjour.
Bienvenue, vous êtes dermatologue à Paris. C'est douloureux de se faire détatouer?
Oui, le détatouage aujourd'hui qu'on pratique le plus souvent au laser, c'est une technique douloureuse, mais on peut anesthésier la peau avec une crème anesthésiante au préalable.
Comment ça se passe un détatouage? Tiens, je me suis fait tatouer le visage de Guillemette Odissino sur l'épaule. Non, pas sur la fesse gauche quand même, sur l'épaule. Et si je le regrette pour des X raisons, ça n'arrivera jamais, mais imaginons que je regrette.
Si.
Il y a un tatouage que je pourrais regretter. Il y a un tatouage que je pourrais regretter, c'est le tatouage de la tête d'Éric Libio. Ça, non. Mais Marie Jourdan,
sur la fesse également ou...
Non, pas sur la fesse. Qu'est-ce que je ferais, Marie Jourdan?
Cette analyse du tatouage, elle va permettre de pronostiquer un petit peu le détatouage par rapport à la couleur de l'encre, la densité, la profondeur, l'ancienneté. On va essayer de savoir combien il faudra de séances, si ça va être très long et donc cher, et aussi si ça va laisser absolument aucune trace ou si on risque de laisser, par exemple, une qualité d'encre particulière qui risque d'être résistante, etc. Donc ça, c'est une phase importante d'analyser. Mmh. Et la plupart du temps, aujourd'hui, avec les nouvelles générations de lasers, on arrive effectivement à détatouer sans marque. Mais ça peut représenter plusieurs séances, jusqu'à 10 séances, et le patient se présente avec de la crème anesthésiante qu'il a mis une heure et demie avant, qu'on nettoie, et ensuite on procède à un balayage avec le laser sur le tatouage, et c'est une phase hyper douloureuse puisque le laser vient éclater l'encre qui est dans la peau, et donc ce petit caillou qui était dans la peau va être fragmenté en poussière d'encre qui, cette fois, vont provoquer une réaction inflammatoire, des cloques, des croûtes parfois, et dans la phase de cicatrisation, emporter les résidus d'encre, et c'est ainsi qu'on détatoue au fur et à mesure.
Marie Jourdan, certains pigments du tatouage peuvent irriter la peau, hein, et parfois il faut détatouer pour cette raison-là. Je pense à la couleur rouge obtenue à partir du cinabre ou du sulfure de mercure qui peuvent provoquer des boursouflures ou des démangeaisons, et on peut passer par le détatouage
C'est même le traitement, en fait. Ouais. C'est même le traitement de cette allergie. L'allergie, c'est probablement la complication la plus fréquente pour les tatouages, qui représente peut-être 2% des tatouages, et la majorité des allergies sont liées aux pigments rouges. Alors c'est vrai que le traitement, c'est de détatouer. Le fait de libérer cette encre dont on est allergique peut parfois provoquer un petit urticaire autour quelques jours, mais on prend des précautions, on prend des anti-allergiques pendant quelques jours, et effectivement, le traitement, c'est de nettoyer l'encre.
Qui vient vous voir dans votre cabinet, docteur Marie Jourdan? Pour quelle raison vient-on vous voir, en règle générale?
toujours surprenant. Toujours, c'est très varié, c'est vraiment tout. Et d'ailleurs, je vous écoutais tout à l'heure dire que le tatouage, c'est un peu un rite, c'est une expérience, un rite de passage, etc. Mais moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de patients qui vivent le détatouage de la même manière. Mmh. Ils viennent effacer, tourner la page, changer. C'est parfois un rite. Alors, il est jamais fait sur un coup de tête, parce que le détatouage, c'est quand même rarissime qu'on enlève un tatouage en une séance, même si ça peut arriver. Donc, en général, comme il y a plusieurs séances, bah, le patient, il a bien réfléchi. Voilà, chaque séance, il réfléchit son détatouage, mais c'est parfois quand même une maturation après le tatouage. Il y en a beaucoup qui ont fait des tatouages effectivement sur des coups de tête. Beaucoup, par exemple, lors de voyages. Ça arrive beaucoup en Polynésie, en Thaïlande. Mmh. Les gens reviennent avec des tatouages qu'ils regrettent dans leur contexte social chez eux. Et puis, il y a d'autres tatouages qui sont ratés. Il y a des prénoms qui sont plus d'actualité.
Et puis, on peut également se détatouer pour des raisons professionnelles. Dans certains milieux professionnels, il est très mal vu d'être tatoué. Oui, je crois que dans la police la gendarmerie, je crois qu'il y a des zones du corps qu'on ne peut pas tatouer ou qu'on ne doit pas tatouer.
La police, j'en avais pas mal à une époque, mais c'est vrai que depuis 2017, ça a été autorisé. En fait, désormais, ils ont le droit de porter la barbe proprement taillée. Ils ont le droit d'avoir des tatouages visibles sur les avant-bras.
Ça a changé.
En revanche, j'ai plus de patients pour le milieu professionnel, des gens qui sont gênés. Qui ont l'impression qu'ils ont raté une promotion ou qu'ils n'ont pas été préférés par rapport à quelqu'un d'autre, parce que dans les banques notamment, les métiers sérieux de comptabilité, etc., il y a un côté compétition. Et j'ai parfois des patients qui ont l'impression qu'ils ont été gênés par leur tatouage.
Question de Laurent Gaze.
Oui, non, j'ajouterais quand même qu'il y a aussi un coût, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une souffrance, une douleur physique, mais il y a aussi une douleur porte-monnaie, puisque là, je parle sous le contrôle de Marie Jourdan, mais il faut compter au moins un budget de 2000 euros pour se faire détatouer, un tatouage moyen. Et nous, on a essayé d'évaluer à un moment donné le marché mondial du tatouage. On n'a pas trouvé. En revanche, on a trouvé le marché mondial du détatouage. Et l'estimation, c'est quand même quelque chose comme 10 milliards d'euros, 12 milliards de dollars pour ce marché du détatouage.
Et Louise Gay de Bélissant, je rappelle que vous avez publié « Parce que les tatouages sont notre histoire ». Est-ce qu'il y a beaucoup de tatoués que vous avez rencontrés qui ont éprouvé le besoin de se détatouer quand même à un moment de leur vie?
Alors oui, et c'est vrai que c'est aussi un rituel de passage, ça j'entends complètement, parce que se rajouter sur le corps ou l'effacer, en fait, c'est la même démarche à l'envers, et donc forcément ça fait partie d'un rituel et d'un vouloir de changement et d'être différent, d'enlever quelque chose. Et c'est vrai que moi j'ai vu des tatouages qui avaient été enlevés, et je pense qu'en fait les gens vont en général pas jusqu'au bout du détatouage, et que ça laisse du coup une espèce de trace, et qu'en fait, ils refont un cover par-dessus un recouvrement avec un autre tatouage. C'est vrai que c'est quelque chose de long, et il faut assumer, et c'est vrai que c'est quand même super cher, donc forcément, la solution que je vois le plus souvent, c'est de recouvrir un tatouage ou un détatouage.
Bonjour Dave, vous êtes secrétaire de la boutique Tintin Tatouage à Paris. Alors vous avez regretté votre premier tatouage?
Bah, regret, oui, c'est on se fait tatouer jeune, donc forcément on réfléchit pas trop, on fait ça sur un coup de tête et surtout on se renseigne pas beaucoup. Et malheureusement, on n'a pas forcément la qualité souhaitée.
Et c'était quoi ce premier tatouage que vous avez regretté, Dave?
C'est un vampire.
Et est-ce qu'il y a de l'accompagnement chez les personnes qui viennent dans votre boutique en expliquant bien, bon voilà, est-ce que vous avez bien réfléchi, s'il ne s'agit pas d'une impulsion?
Ouais, ça, c'est très très important. Ce que je dis le plus souvent, c'est réfléchissez bien, on n'a qu'une vie, un tatouage c'est à vie. Vaut mieux attendre un mois, deux mois, une année pour bien se renseigner sur le motif, la réalisation, ou voir plusieurs tatoueurs. Faut pas faire ça sur un coup de tête. Comme vous avez dit précédemment, c'est un coût. C'est quand même, ça reste un produit de luxe, un tatouage.
Ça coûte combien en moyenne d'ailleurs un tatouage?
Tout dépend. Ça dépend de la taille, ça dépend du détail, c'est vraiment du cas par cas.
D'accord. Bonjour Thibaut, vous avez 26 ans, vous. Alors vous êtes tatoué de la tête aux pieds. Vous avez combien de tatouages à peu près?
Bonjour à toute l'équipe. C'est impossible de vous dire combien j'ai de tatouages exactement, je compte plus. J'ai l'ensemble d'un bras entier, l'épaule, les jambes, j'en ai un peu de partout, mais pas sur le visage ni le cou encore.
Ouais. Bon, est-ce que vous en regrettez un seul ?
Non, aucun.
Alors comment vous voyez-vous la démarche du détatouage ? Comment vous la jugez, entre guillemets ?
Comme le tatouage, je pense que si les personnes éprouvent le besoin de se faire détatouer, c'est comme le tatouage, c'est un choix personnel qui doit être réfléchi, au même titre que le tatouage, et que ça peut symboliser pareil, comme le tatouage, une étape, un cheminement personnel.
Et est-ce que vous seriez prêt à vous détatouer pour des raisons professionnelles ? Certaines parties, en tout cas.
Ouais. Ah, je vous reçois plus.
Est-ce que vous pourriez vous détatouer pour des raisons professionnelles ? En tout cas, certains tatouages ?
Non. Je faisais partie d'un corps militaire quand j'ai commencé à me faire tatouer. Donc au début, on n'avait pas le droit de les arborer. Donc ils étaient cachés, mais non, je pourrais pas l'envisager. Hein. Ça fait partie de moi et impossible.
Merci beaucoup Thibaut et Dave d'être intervenus dans l'émission. Merci beaucoup Docteur Marie Jourdan de nous avoir éclairé sur le détatouage. Un dernier mot peut-être David Le Breton, un mot de conclusion.
Oui, le détatouage en effet c'est une forme de libération finalement. C'est une manière de faire à nouveau peau neuve et donc de renaître après avoir éliminé un certain nombre d'erreurs dans son parcours personnel.
Merci à tous, merci Héloïse Gué de Bélissin. Je recommande Parce que les tatouages sont notre histoire. C'est publié chez Robert Laffont. Merci beaucoup David Le Breton d'être venu. On peut lire avec profit votre livre qui s'appelle
Signes d'identité, tatouage piercing et autres marques corporelles.
Et c'est chez Métellier. Et on peut lire avec profit l'enquête du Parisien Week-end consacrée au détatouage. Merci Laurent Gaise.
C'est en kiosque aujourd'hui. Ouais.
Merci d'être venu. Et sachez que la 9e édition du Mondial du tatouage se déroulera les 15, 16 et 17 février à la Grande Halle de la Villette à Paris. Et c'est le chorégraphe Philippe de Coufflet qui en est le parrain cette année. Dans un instant, et c'est même pas dans un instant, tout de suite, vous l'attendez, l'éternel retour d'Éric Libio. Éric Libio, rédacteur en chef à l'Express, quoi de neuf cette semaine dans l'éternel retour ?
Eh bien écoutez, vous le dites, hein, c'est le retour de l'éternel retour et puisque vous le réclamez à corps tatoués et à cris, je vais vous faire le résumé de tout
c'est quoi ce melon
vous...
là ?
Ah bah écoutez, j'étais pas là pendant 15 jours. voilà. Je fais donc le résumé de tout ce que vous avez raté ces dernières semaines et dont j'aurais pu vous entretenir. Vous avez raté par exemple l'éternel retour de la Fashion Week. Remarquez que moi aussi je l'ai raté puisque je ne suis jamais invité.
Ça se voit.
Vous me direz que ce n'est pas grave, Ali, vu que je ne suis pas très à la mode, et d'ailleurs vous vous êtes souvent moqué de mes gilets que je portais pourtant avec une élégance certaine.
On est d'accord Guillemette ?
Oui.
Ouais, mais enfin je vais vous faire remarquer que le gilet en ce moment est très tendance, et vous faites moins le malin aujourd'hui, car je vous imagine mal aller vous moquer des porteurs de gilets qui défilent par milliers dans les rues. Comme quoi, ne pas être à la mode, c'est l'être tout le temps. Finalement, je vous laisse méditer là-dessus. Vous avez aussi raté l'éternel retour de la chandeleur. Et j'aurais pu vous donner une bonne recette de crêpes. Tant pis, ce sera pour l'année prochaine. D'ici là, il est conseillé de lire les œuvres complètes de Raymond Chandeleur. D'ailleurs, en parlant de complètes, là,
mon
bah oui, c'est un festival aujourd'hui.
Mon Dieu,
D'ailleurs, en parlant de complètes, la seule galette qui vaille est la complète œuf, fromage, jambon, point. Les machins un peu des crêpes avec salade verte, viande hachée, moule ou poulet basket sont à proscrire. Sinon, une bonne recette de crêpes, c'est du beurre et du beurre, je ne vous dis que ça. En janvier, vous avez aussi raté l'éternel retour des soldes, du mois du blanc, de l'épiphanie, du mois sans alcool, et puis la journée internationale de la Corse, la journée de Tintin, la journée mondiale sans pantalon, qui tombait d'ailleurs pendant la Fashion Week, la journée des câlins, qui est sans doute un avant-goût de la Saint-Valentin, comme des préliminaires. Ah bah tiens, nous y voilà. Vous auriez pu également rater la Saint-Valentin, mais heureusement, c'est jeudi prochain, donc on est encore dans les temps pour cette éternel retour de la fête des amoureux. Remarquez que rater la Saint-Valentin, c'est peut-être pas si idiot que ça. Je pense à toutes celles et ceux qui oublient le bouquet de fleurs, l'invitation à dîner ou l'éponge neuve et qui, le soir du 14 février, rentrent chez eux comme d'habitude. Ah, si l'on pouvait rater cette Saint-Valentin et tant d'autres, et tant qu'à faire toutes ces journées de machin-choses qui donnent bonne conscience. Cette semaine, par exemple, il y a eu la journée du Nutella, je ne sais pas pourquoi, la journée sans téléphone qui est tombée à l'eau, la journée sans paille mais pas la journée sans poutre, et la journée de la vie consacrée, mais consacrée à quoi ? On ne sait pas. Aujourd'hui, 8 février, c'est la journée mondiale de prière et de réflexion sur la traite des humains. C'est pour vous, Ali, que vous réfléchissiez à la façon dont vous me traitez quand je prends un gilet. Cette inflation des journées machin-chose est un peu symptomatique de cette époque où les réseaux sociaux fabriquent au mieux de l'écume et du vent, au pire s'érigent en tribunal moral, ridicule où il faut s'indigner ou applaudir 24 heures. Et le lendemain, c'est fini. Ces journées sont tellement nombreuses d'ailleurs qu'elles ne veulent plus rien dire. Et car il faut toujours faire attention aux effets pervers des principes qui peuvent être vertueux à la base, comme le tatouage par exemple. Et les éternels retours ne sont pas moins sujets à perversion que les autres. Le 1er mars, par exemple, qui sera un vendredi, c'est la journée du compliment. Il faudra d'ailleurs que je trouve une excuse pour ne pas être là. Manquerait plus que je sois obligé de vous complimenter, Ali, à quoi que ce soit. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme et revient toujours.
Alors moi, j'aimerais créer la journée de ceux qui portent des chemises sur des chemises, comme vous.
Éric Thibio. Mais je lance ça s'appelle une surchemise, Ali.
Oui, mais une surchemise. Hein. Habituellement, enfin, les surchemises, on les met avec des t-shirts. Je sais pas, je trouve ça toujours un peu bizarre, Éric Thibio. Voilà, bref. Merci d'être venu, en tout cas. Merci à la documentation de Radio France, aux standardistes de France Inter et à l'excellente programmation de Muriel Pérez. Bonjour Antoine Lee.
Bonjour.
Il n'est pas l'heure de votre reportage. Vous êtes grand reporter de l'émission et lundi, bah c'est vous qui présentez l'émission et c'est votre première fois, non pas à la radio, mais la première fois que vous présentez une émission de radio.
Tout à fait, c'est un grand bonheur et lundi, on va ouvrir bien grand la bouche parce que on va inviter nos auditeurs à poser toutes les questions sur les dents. Alors on va parler de prévention, on va aussi démonter quelques idées reçues et on verra aussi comment les dents sont devenues un marqueur d'inégalité sociale.
Vous savez que vous avez de très belles dents, c'est pour ça que c'est vous qui me remplacez.
Mais venez pas autant que vous, justement, je vais vous demander quel est votre secret pour avoir l'un des plus beaux sourires de France Inter.
Mais quel faillot, mais c'est bon, vous
mais non, mais c'est vrai, regardez.
Vous me remplacez lundi, c'est bon, vraiment. Mais en tout cas, je suis ravi que vous soyez à l'antenne lundi. Merci beaucoup Antoine. Et pour ma part, je vous retrouve mardi. Je vous souhaite un excellent week-end à l'écoute de France Inter. À suivre Nagui et sa bande originale qui reçoivent Isabelle Carré et Bernard Campan pour la pièce La Dégustation.